Quatrième considération sur les sacrés et saints stigmates. Lorsque le pur et divin amour eut transformé complètement saint François en Dieu, aussi bien qu'en la véritable image de Jésus crucifié, cet homme angélique, ayant terminé en l'honneur de saint Michel Archange un carême de 40 jours sur l'Alverne, descendit de cette sainte montagne avec frère Léon. Il se vit encore obligé de recourir alors à l'âne d'un bon paysan, car depuis qu'il portait au pied des clous sacrés, il ne marchait plus que difficilement. Cependant, le bruit de sa sainteté s'était répandu dans tout le pays. Les bergers avaient raconté comment la montagne de l'Alverne leur avait apparu tout enflammée, et ils assuraient que c'était là une marque certaine que Dieu avait opéré quelque miracle signalé en faveur du saint. Lors donc qu'il descendit de la montagne, le peuple, instruit de son passage, s'empressa d'accourir pour le voir. Hommes, femmes, vieillards, enfants, tous s'efforçaient de toucher et de baiser ses mains. Saint François ne pouvait résister à de si pressantes instances. Toutefois, il enveloppait avec soin, dans les manches de sa tunique, ses mains déjà couvertes de linge, et il ne laissait baiser que l'extrémité de ses doigts. Pendant qu'il prenait ainsi tous les moyens de cacher le mystère de ses plaies sacrées pour échapper à la gloire des hommes, Dieu résolut d'opérer plusieurs miracles par leur vertu. Il les fit éclater spécialement dans ce voyage de l'Alverne à Sainte-Marie-des-Anges. Puis ensuite, pendant la vie et après la mort du saint, dans les différentes parties du monde. Il voulait, par des prodiges éclatants et certains, manifester la vertu secrète et merveilleuse des stigmates de son serviteur, ainsi que l'excessive charité et la miséricorde dont il s'était plu à le favoriser. Nous allons rapporter ici quelques-uns de ces miracles. Près d'un village situé sur les confins d'Arezzo, une femme vint, tout en pleurs, trouver saint François, lui présenta son fils qu'elle tenait entre ses bras et le supplia de prier pour lui. Cet enfant, âgé de 8 ans, était hydropique depuis 4 ans, et son mal avait déjà pris de si grands accroissements que lorsqu'il était debout, il ne pouvait plus voir ses pieds. À cette vue, touché de compassion, le saint se met en prière, et posant ses mains sur l'enfant, l'enflure disparut aussitôt et le malade demeura parfaitement guéri. La mère reprit son enfant toute transportée de joie et le reconduisit à sa maison en rendant grâce à Dieu et à saint François, et depuis elle se faisait un plaisir de le montrer à ceux de la contrée qui venaient chez elle pour le voir. Le même jour, saint François passa par le bourg de Saint-Sépulcre. Lorsqu'il fut près de Castello, les habitants de cette ville et ceux des pays d'alentour accoururent à sa rencontre. Un grand nombre portait à la main des branches d'olivier et ses cris « Voici le saint, voici le saint !» retentissaient dans toute la foule. Mais tandis qu'excité par la vénération qu'il inspirait, chacun s'empressait confusément autour de lui pour le toucher, le saint. Au milieu d'un si grand tumulte, l'esprit toujours ravi en Dieu par la contemplation, restait complètement indifférent et insensible à tout ce qui se faisait ou se disait autour de lui, ne remarquant même pas le pays qu'il traversait. Cette insensibilité fut telle que, revenant à lui comme d'un autre monde, il demanda à la porte d'un hôpital de lépreux, et lorsque la foule se fut retirée, si on arriverait bientôt au bourg de Saint-Sépulcre. Il en était éloigné déjà 1 mille. C'est qu'en effet, l'âme de ce contemplateur céleste avait été tellement ravie qu'il n'avait plus éprouvé aucune sensation terrestre et qu'il n'avait remarqué ni les chemins qu'il avait parcourus, ni le temps qui s'était écoulé, ni les personnes qui s'étaient empressées autour de lui. Ses compagnons virent ce prodige se renouveler plusieurs fois encore. Arrivé le soir au couvent de Mont Casale, saint François y trouva l'un des frères dans les accès d'une si terrible maladie et si horriblement tourmenté que son état paraissait plutôt une véritable possession du démon qu'une infirmité naturelle. Ce malheureux se jetait quelquefois à terre avec un tremblement effrayant et l'écume à la bouche. D'autres fois, ses nerfs se contractaient, s'étendaient, se repliaient, se tordaient tour à tour. D'autres fois encore, sa tête venait toucher aux pieds et il s'élançait de toutes ses forces pour retomber ensuite étendu par terre. Le saint prenait son repas quand il entendit parler de ce frère si misérablement attaqué d'une maladie que l'on disait sans remède. Il en fut vivement touché. Il prend alors un morceau du pain qu'il mangeait, le bénit avec ses saintes mains stigmatisées par un signe de croix, et l'envoie au malade. Ce frère le mangea et se trouva parfaitement guéri, sans que jamais depuis il se ressentît du même mal. Le lendemain, dès le matin, saint François fit partir deux de ses frères de Moncasale pour aller habiter l'Alverne, et avec eux il renvoya le paysan qui lui avait prêté son âne et qui l'avait suivi jusqu'au couvent. Les deux frères se mirent aussitôt en route. Lorsqu'ils furent sur les terres du comté d'Arezzo, quelques habitants qui les aperçurent de loin, croyant que le saint se trouvait avec eux, en éprouvèrent une grande joie. Une femme du comté, qui était en mal d'enfant depuis 3 jours, était sur le point d'expirer, et l'on espérait une prompte délivrance si le saint était là pour lui imposer les mains. Mais bientôt on s'aperçut avec douleur qu'on s'était trompé. Toutefois, la vertu de saint François vint suppléer à sa présence et répondre à la confiance des habitants d'Arezzo. Au moment où la femme expirante laissait déjà voir la mort sur ses traits, les frères demandèrent quelque objet touché par le saint. Ils cherchèrent eux-mêmes, et ne trouvant que la bride de l'âne sur lequel il était revenu de l'Alverne, ils la prirent et la posèrent sur la malade en invoquant le nom de saint François et se recommandant à lui. Au miracle, aussitôt la femme fut délivrée et mit heureusement au monde l'enfant qu'elle portait. Après avoir passé quelques jours au couvent de Moncasale, le saint partit pour Castello. Dès qu'on y fut instruit de son arrivée, une foule d'habitants accoururent au-devant de lui, et chacun le suppliait de délivrer une femme depuis longtemps possédée du démon, et qui par ses hurlements plaintifs, ses cris affreux et ses aboiements jetait le trouble dans toute la contrée. Saint François se mit en prière, et faisant le signe de la croix sur la possédée, il commanda au démon de se retirer. L'esprit malin disparut, et la femme demeura parfaitement saine de corps et d'esprit. Lorsque le bruit de ce miracle se fut répandu dans le peuple, une autre femme, animée d'une grande confiance, vint aussi trouver le saint, lui présentant son fils qu'une plaie dangereuse avait réduit à un état de grave maladie, et le priait de faire sur lui le signe de la croix. Touché de sa foi, saint François prend l'enfant, retire les linges qui couvraient la plaie, la bénit en y faisant 3 fois le signe de la croix. Puis, de ses propres mains, il remet les linges et rend le malade à sa mère. Il était soir, cette femme mit son enfant au lit, et quand le lendemain elle revint le trouver, elle le vit débarrassé de ses linges et aussi parfaitement guéri que s'il n'avait jamais eu aucun mal. Seulement, à l'endroit de la plaie s'était élevé plutôt comme un témoignage du miracle que comme un reste de la maladie, une excroissance de chair qui avait la forme d'une rose vermeille. L'enfant la conserva toute sa vie, et en la voyant, il sentait sa dévotion se renouveler pour le saint qui l'avait guéri. Cédant aux pieuses instances des habitants de Castello, saint François consentit à demeurer 1 mois au milieu d'eux. Et il opéra beaucoup d'autres miracles. Ensuite, il partit pour Sainte-Marie-des-Anges avec frère Léon et un bon paysan qui lui prêtait son âne. Un jour, qu'ils avaient eu à parcourir des chemins fort mauvais et par un froid très rigoureux, il leur fut impossible de gagner le soir aucun endroit où ils pussent se reposer. Et ils se virent contraints de se retirer dans le creux d'un rocher pour s'y abriter contre la neige et y passer la nuit. Le paysan, qui était mal couvert et qui ne trouvait rien pour faire du feu, sentit vivement le froid et ne pouvait dormir. Déjà il commençait à se désoler, à se plaindre, et même à murmurer contre saint François qu'il avait engagé dans une si pénible situation. Le saint fut touché des plaintes de ce pauvre homme. Dans sa ferveur, il étendit sur lui ses mains embrasées et percées par le feu du séraphin. Ô merveille ! À peine le paysan eut-il été touché que, loin de ressentir encore le froid, Aussitôt il éprouva à l'intérieur et à l'extérieur une chaleur aussi vive que s'il avait été à l'ouverture d'une fournaise ardente. Ainsi ranimé, il prit tranquillement son sommeil, et il rapporta lui-même que le repos qu'il avait pris cette nuit au milieu des rochers et exposé à la neige avait été si paisible et si doux que jamais il n'avait si bien dormi dans son lit. Le lendemain, les voyageurs poursuivirent leur route pour Sainte-Marie-des-Anges. Lorsqu'ils furent près d'y arriver, frère Léon, levant les yeux, aperçut dans la direction du couvent une croix magnifique qui portait la figure de Jésus crucifié. Cette croix, qui suivait exactement tous les mouvements du saint, brillait d'une si vive splendeur qu'elle éclairait non seulement son visage, mais encore tout le chemin où il se trouvait. Elle ne disparut qu'au moment où il entra à Sainte-Marie-des-Anges. Ce fut avec une joie pleine d'affection que les frères le reçurent, lui et son compagnon, et dès lors ils eurent la consolation de le posséder presque toujours au milieu d'eux jusqu'à sa mort. Quoique l'humble saint François employât tous les moyens pour cacher aux hommes les grâces et les faveurs dont Dieu le comblait, quoiqu'il se considérât toujours comme le plus grand des pécheurs, le bruit de sa sainteté se répandait de plus en plus dans son ordre et dans le monde entier. Frère Léon ne pouvait comprendre une humilité si parfaite, et il se disait un jour dans sa simplicité « Voici un homme qui fait l'admiration de tout son ordre. Dieu le comble des plus insignes faveurs, et il dit à tout le monde qu'il est le plus grand des pécheurs. Cependant, jamais il ne s'accuse de pécher contre la sainte vertu. Aurait-il donc conservé son innocence première ? Et dès lors, le bon frère éprouva un vif désir de savoir la vérité sur ce point. N'osant en parler au saint lui-même, il eut recours à Dieu et le pria de lui faire connaître ce qu'il souhaitait avec tant d'ardeur. En faveur de sa persévérance dans la prière et des mérites de saint François, ses vœux furent exaucés et une vision vint l'assurer que le saint avait vraiment conservé sa première innocence. Dans cette vision, frère Léon aperçut saint François sur le sommet d'une montagne très élevée et inaccessible, et il lui fut révélé que cette prodigieuse hauteur signifiait, en son bienheureux père, l'excellence de la virginité qui convenait si bien à un corps qui devait être honoré des sacrés et saints stigmates de Jésus-Christ. Cependant, voyant que, par suite de ses plaies, ses forces diminuaient de jour en jour et qu'il allait devenir incapable de diriger son ordre, le saint se hâta de convoquer un chapitre général. Lorsqu'il le vit rassemblé, il s'excusa humblement en présence des frères sur l'impuissance où il se trouvait de se charger désormais comme général du gouvernement de son institut. Il ajouta qu'il ne renonçait cependant pas encore à son titre, parce que l'ayant reçu du pape lui-même, il ne dépendait pas de lui de le déposer sans sa permission expresse. Mais il établit comme son vicaire frère Pierre de Catane, et lui recommanda à lui et aux ministres provinciaux de donner à l'ordre leurs soins les plus vigilants. Alors, fortifié en esprit, élevant les mains et les yeux au ciel, il s'écria : C'est à vous, ô Dieu, mon Seigneur, c'est à vous que je recommande cette famille qui est la vôtre et que vous m'aviez confiée. Vous le savez, ô mon très doux Sauveur, infirme comme je le suis, je ne puis plus maintenant emporter moi-même tout le fardeau. Je la recommande aussi aux ministres provinciaux. Si par leur négligence, leur mauvais exemple ou leur dureté, un seul frère venait à se perdre, qu'ils en répondent devant vous au jour du jugement, ô mon Seigneur. » En ce moment, Dieu permit que tous les frères qui assistaient au chapitre comprissent que les sacrés et saints stigmates étaient l'infirmité dont parlait leur Saint-Père, et tous versaient des larmes d'attendrissement. Dès lors, saint François se reposa sur son vicaire et les ministres provinciaux du gouvernement de son institut, et il disait « Maintenant que mes infirmités m'ont obligé de renoncer à l'administration de l'ordre, il ne me reste plus qu'à prier pour sa prospérité et à donner le bon exemple à mes frères. Je suis certain d'ailleurs que si Dieu me rendait la santé, le plus grand service que je pourrais rendre à notre religion, ce serait encore de supplier la divine bonté de la défendre, de la gouverner et de la conserver. Quoique saint François, comme nous l'avons déjà dit, employât tous les moyens pour cacher ses sacrés et saints stigmates, quoiqu'il tînt ses mains toujours enveloppées de linge et ses pieds couverts d'une chaussure, quoiqu'il s'efforçât surtout de cacher avec un plus grand soin la plaie du côté, il ne pouvait cependant empêcher que bien des frères ne remarquassent et même ne touchassent ses glorieuses cicatrices. Ainsi, un frère qui le servait, l'ayant un jour prié, par une pieuse ruse, de retirer sa tunique pour en secouer la poussière, pendant que le saint s'en dépouillait, eut le loisir de remarquer la plaie du côté. Il se hâta même d'y porter la main, la toucha de trois doigts, et put ainsi mesurer sa largeur. Peu de temps après, frère Pierre de Catane se servit aussi de ce moyen pour voir cette plaie. Mais frère Ruffin fut celui de tous qui put le mieux s'assurer de l'existence des sacrés stigmates. Ce frère était d'une haute contemplation, et c'est de lui que saint François disait qu'il n'y avait point d'homme plus saint au monde. Aussi avait-il pour lui une affection tout particulière, et il ne savait rien lui refuser. Frère Ruffin se convainquit de trois manières de la réalité des plaies du saint. Le séraphique père portait sur les reins un vêtement qui montait assez haut pour couvrir la plaie du côté. Lorsque frère Ruffin le lavait, il l'examinait avec soin, et toujours il trouvait toute sanglante la partie qui posait sur le côté, signe manifeste de la plaie qui s'y trouvait. Quand saint François s'apercevait que le frère examinait ainsi son vêtement, il le reprenait doucement de sa curiosité. Le second moyen qu'employa frère Ruffin pour se convaincre fut un jour d'enfoncer les doigts dans la plaie du côté. Le saint en ressentit une si vive douleur qu'il ne put s'empêcher de s'écrier « Ô frère Ruffin, Dieu vous pardonne le mal que vous venez de me faire éprouver !» Enfin, un jour que ce frère priait instamment saint François d'échanger sa tunique contre la sienne, le bon père, quoiqu'un peu malgré lui, consentit à le satisfaire, et pendant qu'il retirait son vêtement pour prendre l'autre, frère Ruffin eut encore le temps d'examiner parfaitement la plaie du côté. Frère Léon, lui aussi, et plusieurs autres frères eurent la consolation de voir les sacrés stigmates de saint François pendant sa vie. Toutefois, malgré leur sainteté et la confiance que méritaient leurs paroles simples et sans art pour donner une certitude entière de ce qu'ils rapportaient, ils en firent le serment sur le Saint-Livre des Évangiles. Plusieurs cardinaux qui étaient dans l'intimité du saint virent aussi ces stigmates, et ils composèrent de pieuses hymnes, des antiennes et des proses en témoignage de leur respect pour ces signes sacrés. Le pape Alexandre lui-même, prêchant devant un auditoire où se trouvaient tous les cardinaux, et parmi eux le saint frère Bonaventure, affirma qu'il avait vu de ses propres yeux les plaies de saint François lorsqu'il vivait encore. Giacoba de Sentensoli, l'une des dames romaines les plus distinguées de son temps, et qui avait pour le saint une grande dévotion, eut aussi la consolation de voir ses stigmates pendant sa vie et de les baiser après sa mort. Instruite par une révélation que saint François était sur le point de mourir, elle se hâta, comme nous le raconterons tout à l'heure, de venir à Assise pour le voir une dernière fois. Quelques jours avant sa mort, le saint se trouvait à Assise au palais de l'évêque avec quelques-uns de ses compagnons, et là, malgré les infirmités dont il était accablé, souvent il chantait les louanges de Jésus-Christ. Un jour, un de ses frères lui dit « Père, vous le savez, les habitants de cette ville ont une grande confiance en vous. Ils vous regardent comme un saint. Afin donc de ne pas leur donner occasion de croire qu'ils se sont trompés, vous devriez maintenant penser à la mort et pleurer bien loin de chanter. Car enfin, vous êtes dangereusement malade, et sachez bien que vos chants et ceux que vous nous commandez sont entendus par les gens du palais et par les hommes armés qui se trouvent au dehors pour vous garder. Veillez donc à ne pas leur donner mauvais exemple. » Pour moi, ajouta le frère, je crois que nous ferions bien de retourner à Sainte-Marie des Anges. Nous ne sommes pas convenablement dans ce palais. Il y a trop de séculiers autour de nous. Mon bien-aimé frère, répondit saint François, vous savez qu'il y a 2 ans, lorsque nous étions à Foligno, Dieu vous a fait connaître le moment de ma mort. Il m'a révélé encore il y a quelques jours que je devais mourir de la maladie dont je suis atteint maintenant. Et dans cette révélation, il m'a donné l'assurance de la rémission de tous mes péchés et de la béatitude du paradis. Jusque-là, je pleurais à la pensée de la mort et de mes fautes, mais depuis je suis inondé de joie et je n'ai plus de larmes à verser. Je chante donc et je chanterai toujours ce Dieu qui m'a comblé de ses grâces et qui m'a donné la certitude du bonheur et de la gloire des cieux. Cependant, je consens volontiers à quitter ce palais, mais cherchez le moyen de me transporter, car infirme comme je le suis, je me sens incapable de marcher. Aussitôt les frères prirent dans leurs bras leur Saint-Père et l'emportèrent, et une foule d'habitants d'Assise les accompagnait. Lorsqu'il se vit près d'un hôpital qui se trouvait sur le chemin, saint François pria ceux qui le portaient de le déposer à terre et de le tourner vers la ville. Alors il appela sur Assise une grande abondance de bénédictions. « Soyez bénis du Seigneur Dieu, cité sainte, s'écriait-il. Soyez bénis parce que beaucoup d'âmes seront sauvées en vous et par vous. Un grand nombre de serviteurs du Très-Haut demeureront dans l'enceinte de vos murailles, et du nombre de vos citoyens, beaucoup seront choisis pour le royaume de la vie éternelle. » Ayant dit ces mots, le saint ordonna de continuer la marche, et l'on arriva bientôt à Sainte-Marie des Anges. Lorsqu'il eut été conduit à l'infirmerie, il fit appeler un de ses compagnons et lui dit « Mon cher frère, Dieu m'a révélé le jour de cette maladie où je dois mourir. Vous connaissez le dévouement de la dame Jacoba de Sentensoli pour notre ordre. Vous savez aussi quels seraient ses regrets si ma mort arrivait sans qu'elle y fût présente. Faites-lui donc savoir que, si elle veut me trouver encore en vie, elle se hâte d'arriver ici. Père, répondit le frère, vous dites bien, cette dame a pour vous une si grande vénération qu'il est vraiment convenable qu'elle assiste à vos derniers moments. Allez donc, reprit saint François, apportez-moi de l'encre, du papier et une plume, et vous écrirez ce que je vais vous dicter. Le frère obéit et le saint lui dicta la lettre suivante. À la dame Jacoba, servante du Très-Haut, frère François, pauvre petit serviteur de Jésus-Christ, salut et communication du Saint-Esprit en Jésus-Christ notre Seigneur. Sachez, ma bien chère sœur, que le Christ a jamais béni m'a fait la grâce de me révéler le terme de ma vie qui doit arriver bientôt. C'est pourquoi, si vous voulez me voir encore, partez dès que vous aurez reçu cette lettre et hâtez-vous d'arriver à Sainte-Marie des Anges. Apportez avec vous de l'étoffe, ou plutôt un cilice, pour ensevelir mon corps et de la cire pour mon enterrement. Je vous prie aussi d'apporter de ces pâtes que vous me faisiez prendre à Rome quand j'étais malade. En ce moment, le saint ayant connu par révélation que la dame Jacoba venait le trouver, qu'elle était déjà près du couvent et qu'elle apportait tous les objets qu'il lui demandait, il dit au frère de ne plus écrire et de mettre sa lettre de côté parce qu'elle n'était plus nécessaire. Chacun s'étonnait de cette conduite, mais voici qu'un instant après, on entend frapper vivement à la porte. Saint François envoie le portier, on ouvre. C'était la dame de Sentensoli elle-même qui arrivait avec 2 de ses fils, sénateurs de Rome et une nombreuse escorte d'hommes à cheval. On les fit entrer et la dame Jacoba se rendit droit à l'infirmerie pour y voir saint François. Sa joie fut extrême lorsqu'elle le trouva vivant encore et qu'elle put lui parler. Et le saint lui-même, en la voyant, ressentit une grande consolation. La pieuse dame lui raconta comment Dieu, au moment où elle était en prière à Rome, lui avait révélé qu'il touchait au terme de sa vie et qu'il devait lui demander les objets qu'elle avait apportés. Puis elle lui présenta les pâtes qu'il avait souhaitées, et le saint se sentit fortifié lorsqu'il les eut prises. Après cela, la dame de Sentensoli tombe à genoux près de lui, saisit avec un saint empressement ses pieds ornés des stigmates du Christ, les baise avec respect et les arrose de ses larmes. À ce touchant spectacle, les frères croyaient voir Madeleine aux pieds de Jésus-Christ, et ils ne pouvaient arracher la pieuse dame des pieds de leur père. Enfin, lorsque sa dévotion eut été pleinement satisfaite, ils la tirèrent à l'écart et lui demandèrent comment elle avait pu venir si à propos et munie de tout ce qui était nécessaire à saint François. La dame répondit qu'au moment où elle était en prière à Rome, une nuit, elle entendit une voix du ciel qui lui dit « Si tu veux encore voir le saint, hâte-toi de partir pour Assise. Porte ce que tu as coutume de lui présenter quand il est malade et tout ce qui est nécessaire pour sa sépulture. Voilà ce qui m'a été prescrit, ajouta la dame, et j'ai aussitôt obéi. Giacoba resta dans le couvent jusqu'à la mort de saint François. Elle rendit ensuite, elle et tous ceux qui l'accompagnaient, les plus grands honneurs à sa sépulture et voulut faire elle-même toutes les dépenses nécessaires en cette circonstance. Puis elle revint à Rome, où elle mourut peu de temps après en odeur de sainteté. Par dévotion pour le saint, cette noble dame, avant sa mort, avait demandé qu'on la transportât et qu'on l'inhumât à Sainte Marie des Anges. Ses dernières volontés furent remplies. Comment le chevalier Jérôme vit et toucha les plaies de saint François, auxquelles il ne croyait pas auparavant. Après la mort de saint François, la dame de Sentensoli, ses fils, et les gens de sa suite ne furent pas les seuls qui virent et baisèrent ces sacrés et glorieux stigmates. Un grand nombre d'habitants d'Assise eurent aussi cette consolation. Parmi eux se trouvait un chevalier de grande réputation appelé Jérôme. Cet homme, comme saint Thomas à l'égard de Jésus-Christ, avait jusque-là refusé de croire aux plaies du saint. Pour s'en assurer et pouvoir en assurer les autres, il se permit un jour, en présence des frères et des séculiers qui se trouvaient près du corps du bienheureux, d'agiter les clous des mains et des pieds et de palper la plaie du côté. Depuis, il devint un témoin constant de la réalité des stigmates, jurant même sur le livre sacré qu'il les avait vus et touchés. Sainte Claire et ses sœurs, s'étant rendues à Assise pour les obsèques de saint François, eurent aussi le bonheur de voir et de baiser ses glorieuses et sacrées plaies. Du jour et de l'année de la mort de saint François. Le glorieux confesseur du Christ, saint François, passa de cette vie à la gloire des bienheureux en l'an de notre Seigneur 1226, le samedi 4 octobre. Et il fut inhumé le dimanche suivant. Il était alors dans la 45e année de son âge, dans la 20e de sa conversion, c'est-à-dire du temps où il était entré dans les voies de la pénitence, et il y avait 2 ans qu'il avait reçu l'impression des sacrés et saints stigmates. De la canonisation de saint François. Saint François fut ensuite inscrit au nombre des saints en l'an 1228 par le pape Grégoire IX, qui vint lui-même à Assise pour la solennité de cette canonisation. Voilà ce qui regarde la quatrième considération.